Siméon, il fait partie de mes préférés dans cette histoire de la nativité, de la naissance de Jésus, dans ce tableau de Noël. Peut-être à cause de ce chant qu'on chantait dans les années 70-80, dans le groupe de jeunes de l'église évangélique libre de Bruxelles. Et donc ce chant de Didier et Noël Chefneux, les témoins, je crois. Donc il y a un petit peu de nostalgie, mais aussi parce que ce Siméon, il va dire des choses étonnantes. On est loin de l'image tranquille de la crèche avec des personnages auréolés et souriants. Même le bœuf et l'âne, qui n'étaient peut-être pas dans l'étable d'ailleurs, mais sont aussi auréolés. Tout est très illuminé, tout est très beau. Mais avec Siméon, on est loin de la féerie de Noël. On est dans la réalité de Noël. Mais commençons par le commencement. Alors là, on a une image de mon peintre préféré, Rembrandt, avec Siméon qui a lui aussi là une longue barbe. Siméon, par ta longue barbe. Commençons par le commencement. Comment Siméon a-t-il su ? Eh bien, il semble que Siméon ait reçu des informations d'en haut, qu'il soit guidé par un personnage haut placé dans les services secrets ou dans les renseignements généraux et qui s'appelle le Saint-Esprit. Dans les versets précédents, Luc insiste sur le fait que cet homme était rempli de l'Esprit. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, c'était un homme droit et pieux, il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Alors, poussé par l'Esprit, il vint au temple. C'est donc le Saint-Esprit qui guide les pas de Siméon vers le temple et vers l'enfant, qui n'a pas vraiment l'air d'un sauveur d'ailleurs. Alors comment Siméon est-il poussé par le Saint-Esprit ? Comment ? Eh bien, le texte ne le dit pas. Il n'y a pas de physique particulière, il n'y a pas d'étoile filante, il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'ange. Peut-être simplement une conviction intérieure, forte, pressante. Aujourd'hui, je dois aller au temple. Et sa femme lui a peut-être dit, mais qu'est-ce que tu vas faire au temple ? Profite de ta retraite, Siméon. Je ne sais pas, mais je dois y aller. Et sa femme, tu deviens vieux, Siméon. Mais ça, il le savait déjà. Mais là, au temple, il sait pourquoi il devait venir pour voir cet enfant d'à peine un mois qui ressemble à tous les autres enfants qui gazouillent comme les autres, qui pleurent peut-être, mais Siméon voit plus loin parce qu'il a les yeux de l'esprit ou les yeux du cœur ou les yeux de la foi et il prononce des paroles qui vont impressionner les parents. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Et pourtant, Marie et Joseph en avaient déjà entendu des paroles sur leur enfant. Les anges qui ont fait des annonces, les bergers qui chantent les louanges, les mages qui offrent des cadeaux royaux. Mais les paroles de Siméon vont au-delà de ce qu'ils ont déjà entendu. C'est un sauveur qui vient de toi. C'est une lumière pour les nations, c'est la gloire et c'est des mots qui restent. Des mots qui vont sortir de l'ordinaire et du conte de fées. Et Siméon va les bénir. Mais la bénédiction va être bizarre. Ça va être une drôle de bénédiction. Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. En guise de bénédiction, on fait mieux quand même. Cet enfant que j'ai dans les bras, dit Siméon, il est là, il est établi, il est placé, il est destiné pour la chute et le relèvement de beaucoup. Déjà l'ambiance retombe. On n'était pas loin de Noël quand même. Comment ça la chute ? Comment ça la chute ? C'est un sauveur, c'est une lumière. C'est la gloire. Ce petit bébé qui est pour le salut, la gloire, la lumière, comment pourrait-il être aussi pour la chute de beaucoup ? On est frappé par ce terme tellement négatif. Soit il vient pour le renouvellement, littéralement la résurrection, Anastasis. Soit tu viens pour la résurrection et de beaucoup, et Noël est avant tout une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie, dit l'ange au berger. Paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté, les anges le chantent. Relèvement de beaucoup. Mais il faut être de bonne volonté. Il faut être dans de bonnes dispositions. Sinon, ce petit enfant pourrait devenir une occasion de chute. Tout dépendra de ce que l'on fera de ce petit enfant si on le prend dans ses bras comme Siméon et qu'on le reconnaît comme sauveur, son sauveur. Là, il y a un renouvellement, un renouveau, mais si on le laisse dans sa crèche comme une image pieuse, mais inopérante, ou si on passe sans le voir vraiment, ou si on n'attend rien de la vie et dans la vie, alors il sera comme une occasion de chute, une pierre sur laquelle le pied vient buter. Jésus, le Sauveur, est une nouvelle à double effet, et Siméon, en deux mots, nous le rappelle. La question de Jésus peut nous faire trébucher ou nous relever. Ce petit bébé dans les bras du vieillard va faire du grabuge dans les chaumières. Et durant les fêtes de Noël, on a l'impression de retrouver une certaine unité autour de Noël. Chacun à sa manière va vivre une fête plus ou moins religieuse. On passe les 10 commandements à la télé ou Ben-Hur ou la grande vadrouille. Mais il y a des crèches un peu partout, enfin de moins en moins. Et les messes de minuit vont faire normalement le plein de fidèles, plus ou moins fidèles. On peut avoir l'impression de retrouver une certaine ferveur autour de la personne de Jésus. Mais j'ai bien l'impression que cette unité culturelle n'est qu'une impression et qu'elle est légèrement fabriquée, et cela de manière assez artificielle. Il me semble que la seule unité, elle se fait autour du grand sapin du centre-ville. Tiens, j'en ai pas vu cette année, peut-être il y a des soucis écologiques, etc. Mais on est autour du grand sapin de Noël illuminé en plein centre commercial, le dieu de la consommation, mais on n'est pas centré autour de Jésus. En fait, ce bébé, il va séparer l'humanité comme un landau peut fendre la foule sur la rue d'Antibes. On s'écarte devant le landau. Il y a ceux qui vont se placer à gauche, ceux qui se placeront à droite, mais et c'est ce qui me semble que Jésus dit quand il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée. Ça ne veut pas dire que Jésus est venu apporter la violence, hein, mais il est venu quelque part apporter la séparation. Sa personne sépare. Jésus, quelque part, est clivant et il sépare jusque même dans les familles. Au sein même d'une famille, on va se placer différemment. C'est douloureux, mais personne ne pourra rester au milieu. La question de Jésus ne permet aucun compromis. Je cite Christophe Payat dans Feu, le périodique de notre union d'église, pour la vérité. Il disait « La violence de Jésus » Il parle du verset « Je ne suis pas apporté la paix mais l'épée ». La violence de Jésus est celle du choix, un choix douloureux, tranchant, parce que l'attachement à Jésus ne vient pas simplement s'ajouter à tous nos autres attachements, au contraire, tous nos autres attachements doivent être redéfinis par rapport à notre attachement à Jésus. Je trouvais ça intéressant. Et devant cette prophétie de Siméon, on pourrait se demander si Noël 2023 n'était pas une occasion pour redéfinir nos attachements par rapport à notre attachement à Jésus. L'occasion de nous positionner tout à nouveau par rapport à Jésus. L'occasion de quitter un instant l'atmosphère de Noël. Bon, c'est sympathique et on ne boude pas le plaisir, hein. De se balader au centre de Cannes, par exemple, mais de me poser la question de Siméon, chute ou relèvement. Pierre qui me fait trébucher au rocher sur lequel je peux m'appuyer. Qui dites-vous que je suis ? Demande Jésus à ses disciples à un moment clé de son ministère. Une image, une fête, un bon moment, une décoration de Noël, une figurine au milieu des centons, ou le Fils de Dieu vivant, qui me donne la vie, la vraie, qui est un fondement sur lequel je peux bâtir une vie qui compte jusque dans l'éternité. Et puis vient cette expression qui intrigue, il sera un signe qui provoquera la contradiction. Le mot signe, dans le Nouveau Testament, ça veut dire phénomène frappant, indiquant l'action de Dieu que nul ne peut ignorer. Un signe frappant que nul ne peut ignorer. Et Jésus est manifestement le signe de l'action de Dieu dans le monde, le signe évident que Dieu s'intéresse à l'histoire de ce monde et à ton histoire. Un signe qu'il intervient dans ce monde et dans mon monde. Un signe que nul ne peut ignorer, mais on peut le contredire, on peut le contester. Et à l'époque de Jésus, on ne s'en privera pas, les pharisiens, les sadducéens, les romains, et puis des gens sans dénomination fixe, Jésus ne comptait pas que des amis. Et on peut se demander pourquoi Jésus a-t-il suscité autant de contradictions, d'oppositions, alors qu'il était le signe évident de l'amour de Dieu pour son peuple, alors qu'il était porteur d'une bonne nouvelle, ou plutôt qu'il était lui-même la bonne nouvelle. Pourquoi tant d'oppositions? Et il me semble qu'une partie de la réponse à cette question se trouve dans le fait qu'il n'était pas vraiment attendu, ou qu'on ne l'attendait pas comme il s'est présenté. Il y a eu comme une surprise ou une déception qui provoque la contradiction, la contestation, le conflit ou finalement le rejet. Vous savez, j'ai appris qu'en France, on était un peu dans une culture de l'homme providentiel. On attend toujours l'homme providentiel, en général, le président qui va sortir, ou un homme politique qui va sortir le pays, l'homme providentiel. Dans d'autres pays, beaucoup moins. Mais en France, on est toujours extrêmement déçu de cette attente de l'homme providentiel. C'est arrivé un petit peu pour Jésus, on attendait un roi, un leader, c'est un serviteur qui vient. On attendait quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un d'humble qui vient. On attendait un politicien qui boute les Romains hors de Palestine, mais c'est un religieux qui arrive. On attendait un patriote énergique, et c'est un non-violent. On attendait un homme d'envergure, et c'est le meneur d'une petite bande assez minable de Galiléens. Ça fait beaucoup de déceptions. Jésus n'est pas celui qui était prévu, et les pharisiens, pour ne citer qu'eux, sont vraiment perturbés, savent plus trop où ils habitent. Ce Jésus est déstabilisant, Jésus est déroutant. Et quand on est surpris, il y a deux possibilités. Soit on accepte la surprise et on rit de soi, comme dans les émissions, vous vous souvenez, surprise, surprise, là. Et puis on rigole et puis on fonce dans l'aventure. On est surpris, mais voilà, on y va. Soit on se cabre. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est ce désordre? On refuse la surprise et on reste fixé sur son petit plan initial où l'on se sent sécurité. Et on affiche sur la porte de sa vie, comme dans une chambre d'hôtel, ne pas déranger. Aujourd'hui encore, Jésus dérange parce qu'il n'est pas vraiment attendu dans ma vie, dans les vies. Cependant, les attentes sont nombreuses, les espoirs aussi d'une vie meilleure, d'un monde meilleur, d'un avenir meilleur. Mais il y a toujours dans notre monde et dans nos vies un vide en forme de Dieu. Il est évident ce vide. Il y a une soif, il y a un manque. Mais bizarrement, Jésus ne fait pas partie de la solution. La solution se trouve évidemment dans la politique, enfin de moins en moins peut-être, dans l'économique, dans l'humanitaire, dans l'écologique, ce qui est très bien, et dans le technologique ou le spirituel à bon marché, des solutions de bricolage. Et comme aujourd'hui, enfin, et aujourd'hui encore, l'homme dit comme le pharisien de l'époque, la solution, je m'en charge. Mais toi, Jésus, ajoute l'homme d'aujourd'hui, l'homo economicus, reste dans ta crèche, reste dans le folklore, ne viens pas tout bousculer les plans de ce monde qui marche très bien sans toi, tu n'es pas attendu, tu n'es pas le bienvenu. L'histoire de l'auberge où il n'y avait pas de place se répète à l'infini dans notre monde fini. Jésus l'a bien dit, la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y a un problème d'hospitalité dans ce monde qui se répète. Alors on pourrait sombrer dans le défaitisme ou le repli identitaire du petit groupe, de ceux qui l'ont accueilli, qui en sont fiers. Mais quand on regarde Jésus, on s'aperçoit qu'il n'est jamais tombé dans ces mécanismes de défense et de repli. Il a pu dire des choses extrêmement dures à travers ce monde, mais il s'est engagé dans ce monde, avec tout son amour, avec toute sa personne. Il s'est engagé dans ce monde ténébreux, qui ne voulait pas l'accueillir, ou qui voulait étouffer cette lumière, comme on peut traduire. Il l'a fait jusqu'à aller sur la croix, la manifestation ultime de son amour, un événement d'ailleurs que Siméon entrevoit déjà alors qu'il tient le bébé dans ses bras, lorsqu'il dit à Marie, « Quant à toi, tu auras le cœur transpercé par une épée. » Le cœur de Marie est transpercé quand elle voit son fils. Non, encore une fois, sympathique cette bénédiction de Siméon pour Marie. L'engagement de son fils va transformer son cœur de mère parce qu'il s'agit d'un engagement total, parce que ce bébé porteur d'espoir, ce bébé glorieux est destiné à payer le prix fort pour le salut des hommes et le tien, le vôtre, le mien. Jésus, la lumière du monde, s'engage dans ce monde de ténèbres. Et on peut penser que par cet engagement de Dieu, tout le monde, certains vont se laisser surprendre, qu'ils vont laisser tomber leur plan initial, bricoler au fur et à mesure, et ils vont se laisser renouveler par Jésus. Il y a de l'espoir, c'est Noël. J'en veux pour preuve le témoignage de... J'ai marqué Kalina, mais c'est Kalida. Qui s'intitule Saisie par la vie de Jésus. Kalida est marocaine, elle est fille de parents arrivés en France en 1963, parquée à Aulnay-sous-Bois. 8 enfants, père déraciné, qui devient plus religieux et plus dur, violent. Le grand frère se tourne vers la drogue et en meurt. Mais Kalida cherche Dieu et lui écrit des poèmes. Elle écrit des poèmes à Dieu, mais ne parvient plus à prier. Elle attend quelque chose, mais ne sait pas quoi. Elle va voir du côté des témoins de Jéhovah. Non. Elle va voir du côté des guérisseurs, mais sans résultat, sinon le désespoir. Et un jour, après avoir appelé Dieu, elle a rencontré un couple chrétien et a été interpellée par leur témoignage, surtout par le témoignage du mari qui est marocain chrétien, et qui, comme son frère, avait touché à la drogue. Et Kalida dit, « Moi aussi, je veux connaître ce Jésus qui donne la paix. » Et elle a lu les évangiles et elle a été, nous dit-elle, saisie par la vie de Jésus. Elle s'est donnée à lui. Elle ne l'a pas dit à son père pendant 5 ans. Et quand enfin elle lui a dit, il s'est énervé. Il lui a dit qu'elle irait en enfer si elle suivait le chemin de ses mécréants. Il y a de la contradiction. Il y a de l'opposition. Mais Kalida tient bon. Elle écrit qu'il n'y a qu'une vérité, celle de Jésus. Et elle cite Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui parle. Et en lisant ce témoignage, en écoutant ce témoignage, on se dit que tous les espoirs sont permis. Parce que s'il y a un temps pour la contestation, s'il y a un temps pour l'opposition, s'il y a un temps pour la fermeture, il y a aussi un temps pour la conversion, pour l'adhésion, pour l'ouverture, pour l'accueil. Il y a un temps pour se donner à Jésus, pour se repositionner par rapport à lui. Il y a un temps pour le prendre dans ses bras, comme l'a fait Siméon, et dire « Mes yeux ont vu le Sauveur. » Il y a un temps pour Noël. Je vous invite à prier. Et je lis une prière. Béni sois-tu, Seigneur. Enfin, il vient le jour où tu visites les tiens. Tu l'avais promis à Moïse, tu l'avais juré à David. Le voilà enfant qui vient. Dieu, tu entres dans la patte humaine et tu donnes ce crédit à l'homme, mon frère, mon ami, celui qui est loin, comme celui qui est proche, et ton visage, Seigneur. Quand toi, le Très-Haut, tu te fais tout proche, quand toi, le Très-Grand, tu te veux petit, le monde n'est plus le même. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu en chacun de nous. Seul l'amour pouvait oser cela. Je tombe à genoux, émerveillé, muet, mais tu m'ouvres les lèvres et je chante « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, le Seigneur Dieu des nations. » Oui, Seigneur, nous voulons être comme Siméon ce matin, poussés par l'Esprit d'être venus ici ce matin et prendre Jésus dans nos bras et y voir notre Sauveur. Sauveur du monde, oui, mais mon Sauveur. Comme le dit Marie dans son cantique aussi, mes yeux, enfin pas mes yeux, mais j'ai vu mon Sauveur, nous avons besoin de toi pour illuminer notre vie, pour qu'elle puisse passer des ténèbres, pour ne pas exagérer, des zones d'ombre vers la lumière. La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Seigneur, donne-nous de l'accueillir tout à nouveau ce matin dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais à Noël. Et puis pour le reste de ta vie, Seigneur, et pour le reste de nos vies.